Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Bank pour votre compte bancaire.
Priorité Santé. Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous dans Priorité Santé. C'est une inflammation du foie qui se décline selon les 5 premières lettres de l'alphabet, les hépatites virales. Selon l'OMS, 4,5 millions de décès prématurés pourraient être évités dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires d'ici à 2030. Alors comment renforcer la vaccination contre l'hépatite B? Quelle est la prise en charge pour le traitement qui guérit l'hépatite C? Pourquoi le dépistage systématique des femmes enceintes doit-il être généralisé? Autant de questions avec vous qui nous écoutez bien sûr et nos invités. Bonjour professeur Tariq Assela.
Bonjour Madame Laurence Garcia, merci de me recevoir à Priorité Santé.
Eh bien, merci surtout à vous et on va avoir besoin de vos éclairages, surtout nos auditeurs-tristes qui nous écoutent. Vous êtes professeur en hépatologie à l'hôpital Beaujon à Clichy dans les Hauts-de-Seine, directeur de recherche à l'INSERM, responsable des hépatites virales. 4,5 millions de décès qui pourraient être évités d'ici à 2030, c'est énorme. D'où l'importance toujours aussi de la prévention entre autres.
Exactement, on estime qu'il y a environ 250 millions de personnes porteuses du virus B, à peu près 50 à 80 millions de porteurs du virus C. Donc c'est un vrai problème de santé publique, environ 300 millions de personnes infectées. Et malheureusement, le nombre augmente en raison du manque d'implantation, de la vaccination, du dépistage. Donc on s'attend à voir encore plus de décès par cancer du foie dans les années à venir.
On parlera de la vaccination tout à l'heure avec un de vos confrères au Cameroun. D'ici une vingtaine de minutes, nous serons avec le professeur Oudou Njoya, directeur du laboratoire de recherche sur les hépatites virales et la communication en santé de l'université de Yaoundé. Et puis comment en finir aussi avec la stigmatisation de cette maladie qui reste encore honteuse, hein, pour beaucoup, vous le confirmez aussi.
Exactement, c'est très important. Oui, beaucoup de discrimination, de stigmatisation, et donc il faudra dépasser ça. Et ça peut se faire par l'éducation, par en débattre, par les missions que vous faites.
Et par les associations. Et justement, par les associations de patients. On en parlera avec Armaine Adé, qui est administratrice de SOS Hépatite Fédération. Et puis en fin d'émission, tout autre sujet. Nous serons en ligne avec Olivier Couster, organisateur de la course du cœur, qui a lieu à partir de demain jusqu'à dimanche entre Paris et Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs pour sensibiliser le grand public à l'importance du don d'organes. Bienvenue à vous.
Priorité santé sur RFI.
Alors, professeur Tariq Assela, vous avez commencé à nous donner déjà quelques chiffres, mais justement, la prévalence des hépatites B et C dans le monde, comment aussi expliquer une prévalence élevée dans certaines parties régions du monde, notamment l'Asie et l'Afrique? Comment ça s'explique, ça?
Oui, c'est une très bonne question. En fait, on a un très grand nombre d'hépatites B. On estime qu'il y a environ un tiers en Asie, un tiers en Afrique, un tiers dans le reste du monde. On sait qu'il y a un vaccin très efficace et très bien toléré. On prône la vaccination universelle pour tous les nouveaux-nés. Et malheureusement, il n'y a pas d'implémentation. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas fait. Ouais. Donc ça explique que ça continue et on a encore de nouvelles infections.
Ouais. D'où l'importance forcément du dépistage. Alors.
Exactement. C'est très important de dépister parce que c'est une maladie qui est silencieuse. Les hépatites, il n'y a pas de symptômes ou alors des symptômes très vagues comme un peu de fatigue, rien de spécifique. Et donc, c'est très important de faire une prise de sang qui est simple pour faire le diagnostic d'une hépatite B ou d'une hépatite C.
C'est maladie silencieuse. Les deux hépatites, quoi.
Exactement. Oui. On peut identifier les hépatites, l'hépatite B, l'hépatite C. On peut en profiter pour identifier toutes les maladies sexuellement transmissibles, aussi le VIH. Et donc, d'avoir aussi des objectifs groupés, VIH, hépatite B, hépatite C. C'est important parce que l'hépatite B, l'hépatite C, ça va donner des signes que très tardives, quand il y aura un cancer du foie avancé.
Trop tard.
Et ça sera trop tard.
Aigu.
Exactement.
Ouais. Donc, mieux vaut prévenir. Vous parliez de la vaccination obligatoire universelle. C'est pour les nourrissons dès l'âge de 2 mois, hein, c'est ça?
Oui, exactement.
Alors, on a pas mal de questions quand même concernant les doses de rappel. Oui. On va écouter la question d'un voisin qui nous a laissé une note vocale.
Bonjour Priorité Santé, Quentin depuis Ouida au Bénin. J'ai fait le test d'hépatite B, le test étant négatif, il m'a été conseillé de faire le vaccin. J'ai fait les 2 premières doses à 1 mois d'intervalle et la 3e dose je l'ai prise après 3 mois. Cependant, j'ai découvert dans mon certificat international de vaccination ou de prophylaxie que je devais prendre la troisième dose ou bien qui est le rappel de 6 à 12 mois plus tard. Alors je me demande si cela peut avoir des conséquences néfastes sur ma santé et je me demande aussi si le vaccin est bien valide parce que j'ai fait le vaccin il y a de cela déjà 3 ans. Merci, je vous remercie.
Alors, merci surtout à vous, Quentin de Cotonou. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre pour le rassurer,
Oui,
professeur?
Tout d'abord aussi une information importante,
Oui.
c'est que toute personne qui a l'hépatite B, il faut faire le dépistage dans l'entourage, puisque finalement, le mode principal de transmission, c'est vertical, la mère qui va le transmettre au nouveau-né qui n'est pas vacciné. Et donc, on peut avoir les frères et les sœurs qui ont l'hépatite B, ou le conjoint. Et donc, c'est important de faire ce dépistage dans tout l'entourage. D'ailleurs, lui, il dit que dans la famille, il y avait quelqu'un qui avait l'hépatite B, donc il s'est fait dépister. Et ensuite, si on est négatif, on se vaccine. Et si on est vacciné, on n'a plus aucun risque d'attraper l'hépatite B. Donc là, il avait fait un schéma vaccinal qui était incomplet, puisqu'il n'avait pas fait la troisième dose. Donc la recommandation, quand même, c'est de faire un schéma vaccinal complet avec 3 doses, J0 à 1 mois, à 6 mois. Et donc, on lui recommanderait, comme il n'avait pas fait à ce moment-là, de faire un schéma vaccinal complet. C'est un vaccin qui est très, très efficace, qui marche et qui est bien toléré.
Et qui protège toute la vie?
Et qui protège à vie. Et qui protège toute la vie.
Ouais.
Et donc, finalement, il n'y a plus aucun risque dans l'entourage
ouais.
si les personnes ont été dépistées et vaccinées.
On ne le répétera pas suffisamment assez. Parlons des prises en charge. L'hépatite C, il existe un traitement curatif hein, qui soigne et qui guérit vraiment à 100%, on peut le dire.
Exactement, c'est une révolution
ouais.
dans les traitements. Vous savez, après-guerre, il y avait la pénicilline. Et puis là, il y a les antiviraux pour l'hépatite C. On a une prise par jour pour une durée de 2 mois ou 3 mois. Quasiment 100% d'élimination du virus de l'hépatite C est très bien toléré. Et donc, c'est un traitement qui a évité finalement les cirrhoses, le cancer du foie. Vous savez qu'en Europe, en Amérique du Nord, c'est la première cause de transplantation hépatique. Maintenant, c'est une cause minime. Et malheureusement, on a encore des malades qui arrivent, qui n'ont pas été dépistés, qui n'ont pas été traités, alors qu'il y a ces traitements très efficaces.
Malgré le traitement, il faut quand même qu'il y ait une surveillance générale, malgré tout.
Au fait, après le traitement, si on a pris la maladie tôt, non, la personne redevient comme une personne qui n'aurait pas eu l'hépatite C. Si la personne avait eu trop de lésions et avait déjà atteint le stade de cirrhose avec l'hépatite C,
les lésions,
là,
c'est,
il faut une surveillance.
Les lésions, ça se manifeste comment, du coup?
Au fait, le virus va attaquer le foie, il va y avoir de l'inflammation continue sur de nombreuses années. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de symptômes, mais s'il y a un risque d'évoluer vers une maladie du foie qui est complètement désorganisée, déstructurée, où l'architecture change, ça s'appelle la cirrhose. Et là, si on arrive tard, la cirrhose, c'est une maladie précancéreuse qui peut donner le cancer du foie. C'est pour ça qu'il faut éliminer le virus le plus tôt possible avant d'avoir des lésions avancées.
L'hépatite B, traitement à prendre à vie, là, pour le coup, tous les jours.
Oui, alors l'hépatite B aussi, il y a des traitements très efficaces, il faut le dire. Il y a le tenofovir, l'entecavir, le TDF, qui sont très efficaces. C'est une prise par jour. Ça bloque la réplication du virus, donc il y a moins d'inflammation dans le foie. Ça évite la cirrhose, le cancer du foie, mais il faut le prendre tous les jours. Si on l'arrête, il y a une rechute. Donc, c'est des traitements qu'on dit de maintenance à vie, comme pour le VIH. Mais il y a un autre traitement aussi, qui est l'interféron, qui est un immunomodulateur dans l'hépatite B, qui est donné 1 an et qu'on arrête avec une chance de réponse maintenue. Donc, il y a 2 stratégies quand même.
Ah d'accord. Mais ça, ce genre de ce second traitement-là, j'imagine qu'il n'est pas forcément accessible partout, dans toutes les régions
oui,
du monde.
Oui, au fait, il y a beaucoup de traitements qui ne sont pas accessibles.
Eh oui.
Donc, on lutte pour les génériques, l'accès au traitement dans de nombreux pays, avec tous les acteurs, pour essayer d'avoir cet accès au traitement. L'accès aussi aux tests, au diagnostic,
ouais,
pour le dépistage. Et donc, on insiste sur le fait qu'il faut dépister et amener aux patients au traitement. C'est les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé.
Mmh.
Si on améliore le dépistage de l'accès au traitement, on réduirait la mortalité de ces maladies.
Alors, comment on vit au quotidien avec ces hépatites virales? On en parle tout de suite.
Priorité santé, l'émission qui met votre bien-être au cœur des discussions.
On en parle dans Priorité Santé des hépatites virales. Bonjour Carmen Adé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes administratrice de SOS Hépatite Alsace-Lorraine et de SOS Hépatite Fédération, qui, rappelons-le, répond gratuitement à toutes les questions que se posent les patients. Justement, Carmen Adé, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les gens qui vous contactent?
Alors, les gens qui nous contactent sont surtout ceux donc, concernés par les hépatites B et C.
Mmh.
C'est sur, après un dépistage positif, hein, c'est un peu la panique avant d'avoir le rendez-vous chez le médecin. Parce que le rendez-vous chez le médecin, c'est pas immédiat, surtout à l'heure actuelle où il y a des difficultés pour avoir des rendez-vous rapidement.
Ouais.
Donc, ils posent beaucoup de questions. Hein. Tout d'abord, ils ont peur de mourir, parce que souvent, ils ont entendu quelqu'un qui, ou ils connaissent quelqu'un dans leur pays aussi, qui avait une hépatite B et qui en est décédé. Donc, il y a cette peur de la mort. Alors, ils ont peur même de mourir dans l'intervalle du diagnostic, je dirais, du test positif et du rendez-vous chez le médecin. Donc là, dans un premier temps, on les rassure déjà. Oui. C'est une maladie qui n'évolue pas vite.
Oui, hein.
Ils ne vont pas mourir en attendant d'aller chez le médecin. Ensuite, une autre question qui les turlupine aussi, c'est est-ce que je vais pouvoir fonder une famille ? Ils ont aussi peur de ne pas pouvoir fonder une famille. Or, on peut fonder une famille, on peut vivre normalement en connaissant les risques, hein, ou en prenant des précautions. Par exemple, on les informe donc sur les modes de contamination qui concernent l'entourage tout de suite. Par exemple, les matériels, les objets de toilette, les mettre dans une trousse à part pour... pas forcément intentionnellement, mais parfois quelqu'un peut prendre par mégarde une brosse à dents.
Oui, bien sûr.
Et on leur explique surtout, et je crois que ça leur permet un peu de réaliser qu'il y a des précautions, mais qu'on peut quand même vivre avec. C'est que la contamination donc par transmission sexuelle, ça, en général, ils savent. Mais par le sang, c'est contact de sang à sang, c'est-à-dire le sang de la personne malade doit toucher le sang de la personne saine pour qu'il y ait contact. S'il saigne et qu'il touche la peau d'une personne qui n'est pas, qui est saine, il n'y a pas de contamination. Mmh. Ça dédramatise déjà un peu. Et ensuite, le manger ensemble. Oui, ils peuvent manger ensemble. Ça ne se contamine pas par la vaisselle ou par
Oui, encore
par
beaucoup, beaucoup de fausses croyances à déminer. Oui. Hein. Je fais réagir le professeur Tariq à cela par rapport à ce que dit Carmen Adé.
Oui, c'est très important ce que dit Carmen. C'est très important la voix des patients SOS hépatite. Et au fait, tout le monde doit travailler ensemble pour donner la bonne information et l'éducation. Et donc, c'est vrai qu'une personne qui a l'hépatite B ou qui a l'hépatite C ou qui a l'hépatite... chronique, a une vie normale si elle est bien prise en charge et suffisamment tôt. Donc c'est vrai qu'il faut aussi rassurer et il faut expliquer aussi comment vivre avec son hépatite. Et aussi éviter, bien entendu, une consommation excessive d'alcool chronique quotidienne parce que c'est toxique pour le foie, éviter le risque de diabète et de surpoids avec une activité physique régulière et un régime équilibré. Donc aussi de la prévention pour éviter que la maladie progresse parce que ces facteurs aussi aggravent la maladie. Et pour l'hépatite B, finalement, si on dépiste tôt, on peut prendre en charge et la personne peut avoir une vie complètement normale, professionnelle, familiale, avoir des enfants.
Et donc ça, c'est le message
important
à faire passer, quoi.
Exactement.
Forcément, Carmen Adé, vous-même, hein, vous avez contracté l'hépatite B. Est-ce que vous échangez, est-ce que vous parlez de votre vécu avec ces personnes qui vous contactent aussi pour les rassurer, pour trouver les mots justes, parce que ce n'est pas forcément évident, c'est différent quand on vit aussi soi-même cette maladie au quotidien.
Ben souvent, c'est une demande de la part des patients qui contactent de pouvoir discuter avec une personne qui a la même chose.
Oui.
C'est même précisé parfois parce que quand on ressent, pense maintenant à la fatigue qui n'est pas trop reconnue, entre guillemets, par tous les médecins, mais qui est décrite, c'est la même fatigue décrite dans l'hépatite B et dans l'hépatite C. Elle est indépendante du sommeil, elle vous met à plat, elle ne permet pas de réfléchir, elle n'est pas constante, hein. C'est en dents de scie un peu.
Ouais.
Et rien, quand on la ressent, on la comprend déjà quand une personne en parle. Et oui, on peut partager dessus. Du coup, elles sont les personnes qui ont le mettre en avant, oui, ou qui en souffre, parce que c'est un handicap aussi. Hein.
Ouais.
Oui, c'est très important. Le patient est acteur de sa propre santé. Actuellement, on insiste beaucoup sur l'éducation thérapeutique, donner toutes les informations, et on sait qu'il y a une participation à sa prise en charge si le patient a toutes les informations. Donc, on a aussi des patients experts qui vont expliquer à d'autres patients qu'est-ce que leur maladie ?
Avec d'autres mots que les médecins.
Avec d'autres mots que les médecins. Et puis aussi, chaque patient est différent. Il y en a qui vont vouloir discuter avec un patient aussi. En plus, c'est complémentaire du médecin. Mais on insiste aussi que les personnes aient un niveau de compréhension de leur maladie.
dire à la fois être positif que on peut vivre comme tout le monde avec une hépatite, on peut fonder une famille, mais là je rebondis sur un mot que vous venez de dire là, à l'instant, Carmen Adé, vous dites que c'est handicapant aussi.
Lorsqu'il y a cette fatigue, elle n'est pas présente chez tout le monde. Hein. Oui. La plupart des personnes n'ont aucun symptôme, n'éprouvent rien du tout. Mais ceux qui ont le symptôme de la fatigue, oui, c'est handicapant. Alors, je rebondis sur ce que M. Assela a dit. Je suis patiente expert et incluse dans un programme d'éducation thérapeutique à l'hôpital sur donc les maladies du foie, les hépatites surtout, B et C, parce que même pour l'hépatite C, il y a par retour de patients, oui, il est très important de leur dire déjà au départ, quand ils ont le traitement, qu'ils le poursuivent jusqu'au bout. Parce que souvent, au bout d'un mois, ils ont un résultat de prise de sang virus indétectable et ils viennent plus. Donc, c'est comme pour les antibiotiques, il faut aller au bout du traitement.
C'est très important. Et puis, il faut aussi lutter contre la désinformation, les fake news, donc donner de la bonne information. On sait que l'association hépatique, Carmen, est très experte, elle connaît toutes les maladies.
Quel type de fake news ?
Vous savez, quand on va sur Internet et qu'on recherche, il y a tout et n'importe quoi. Oui, donc, il y a aussi, vous savez, des groupes anti-vaccins. Donc, aussi, il y a des informations qui circulent. On le sait aussi pour le Covid, pour d'autres pathologies, où on a beaucoup critiqué certaines prises en charge. Donc, c'est très important d'avoir une information juste, éclairée, à un bon moment, par des personnes formées.
Ouais.
Donc, Carmen a cette expertise, cette formation. Donc, c'est important de donner cette information, de faire des émissions comme vous la faites.
Dernière petite question, Carmen Adé. Il faut le rappeler aussi, parmi les actions de SOS Hépatite Fédération, la prévention, le dépistage, à l'attention aussi des étudiants, hein, des populations en situation de précarité, des foyers de jeunes migrants aussi isolés. Hein, ce sont aussi des personnes qu'il ne faut pas oublier, des personnes à risque.
Les étudiants, oui. Mais les mineurs isolés, ils vivent souvent dans des appartements à 3 ou 4, avec un éducateur. Hein. Mais il y a une personne atteinte de l'hépatite B, il faut leur donner les informations à tous. Alors, on fait des interventions pour qu'ils ne détectent pas lequel est atteint, parce qu'ils s'est stigmatisé, ils ne veulent pas que ça sache. Mais c'est dans la structure, on fait des ateliers de prévention pour tout le monde. Et c'est un atelier obligatoire. Donc, ça parle en même temps à ceux qui ne l'ont pas et à ceux qui l'ont.
Forcément, ouais.
Oui, et dans toutes les manifestations de dépistage, qui peuvent être faites partout, on en fait aussi avec les Restos du cœur, on en fait aussi dans les places publiques, dans les marchés, il y a aussi les tests rapides d'orientation diagnostique. On fait juste une petite piqûre au bout du doigt, et puis on peut faire un test dépistage pour l'hépatite B, le VIH, l'hépatite C. Donc il y a aussi une stratégie d'aller vers les patients, et parce qu'il y a des patients qui ne viendront jamais à l'hôpital. Donc c'est aussi aller là où se trouvent les personnes contaminées. Donc c'est très important d'aller voir où se trouvent les mineurs isolés, d'aller aussi faire du dépistage dans les prisons, d'aller dans des endroits où ces personnes ne viendront pas à l'hôpital. C'est l'importance du dépistage.
En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Carmen Adé. On peut peut-être rappeler le numéro vert gratuit de SOS Hépatite Fédération ?
Oui.
Hein, c'est le 0800-004-372, hein, si je ne m'abuse. C'est bien ça ?
Oui, j'aurais voulu rajouter quelque chose pour l'hépatite C.
Allez-y. Oui.
Pour l'hépatite C, ce qui est important aussi. Et nous avons déjà eu des patients qui étaient catastrophés, c'est de les informer qu'une fois guéris, leur test de dépistage, justement par les tests rapides, resteront toujours positifs après guérison, mais qu'ils n'ont plus le virus. Pour savoir s'ils ont été recontaminés ou pas, il faut faire une prise de sang pour rechercher le nombre de virus.
Et juste, Carmen, parce que vous parlez d'hépatite C, d'insister aussi pour l'usage de drogues intraveineuses, d'avoir du matériel stérile, puisqu'on sait que les contaminations aussi, c'est l'échange de seringues, c'est donc tout la prévention, c'est diminuer les nouvelles contaminations.
Bien sûr. De toute façon, vous allez le voir dans quelques instants, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont des questions justement sur les modes de transmission. Merci beaucoup, Carmen Adé. Je rappelle que vous êtes administratrice de SOS Hépatite Alsace-Lorraine et de SOS Hépatite Fédération. Allez, on attend vos témoignages au 33 1 84 22 75 75. On se retrouve après le chanteur nigérian Ruger avec le groupe kényan d'afropop Sauti Sol et ce titre All My Days sur RFI.
I know that you're sick of me, but I always been your face, yeah, yeah. Took me a while to get here, man, I had to speed my pace, yeah, yeah. Come pole nani, cause you can be say, yeah, yeah. Cause I'm living by my own rules and according to my
ça, tu me douces. Free me avec me, take a la kuta. Need better roasted, talky like Tupac. Don't fuck with Ruga, you are just a puta. Give me a sec, make a clear your doubts. Never said anything that I said for clout. Said what I said, no fish shut my mouth. So declare your doubts. All my days, been asleep for my change. On my way, to heaven's gate I pray. On our way, as long as you get a pay. I just want two girls for the night. Job life for the rest of all my days. For the rest of all my job life for the rest of all my days. For the rest of all my job life for the rest of all my days. All the girls are all my job life for the rest of all my days. For the rest of all my job life for the rest of all my days. Job life for the rest of all my days. For the rest of all my job life for the rest of all my days. For the rest of all my job life for the rest of all my days. For the girls of all my job life for the rest of all my days. For the rest of all my job life for the rest of all my days.
Le chanteur nigérien Ruger avec Sweaty Soul et All My Days sur RFI dans Priorité Santé. On parle des hépatites virales. Quelles sont les différentes prises en charge pour l'hépatite B et C? Et surtout, comment prévenir les contaminations? On en parle avec le professeur Tariq Assela, professeur en hépatologie à l'hôpital Beaujon à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, et directeur de recherche à l'INSERM. Et nous avons un premier appel au 33 1 84 22 75 75. Bonjour Iliassou.
Bonjour.
Merci de nous appeler. Vous êtes du côté de Koudoum, au Cameroun. Alors vous, vous avez 42 ans et vous nous avez confié qu'il y a un an, une coépouse de votre maman est décédée de l'âge, est décédée de l'hépatite B. C'est ça, hein, Iliassou.
Justement.
Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? A priori, vous êtes tous fait dépister, c'est ça? Les enfants, en tout cas.
Oui, justement. On se fait dépister. Beaucoup des enfants, tous les enfants se sont fait dépister, même les enfants qui ne sont pas les siennes aussi.
Et alors, c'était quoi les résultats, et pour les autres enfants, et pour vous-même?
Oui, pour les autres enfants qui venaient justement de la famille de cette maman, c'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants, ils portaient à 90% le virus de l'hépatite B. Mais ce qui concerne les enfants de mon maman, personne n'était contaminé, et c'est ça qui fait problème déjà.
D'accord. Donc vous-même, c'est négatif, hein, c'est ça?
Oui, le chenon, c'est négatif.
Ouais.
Et puis, j'ai aussi essayé de faire quelque chose, c'est que le moment-là, j'étais pas encore marié, et puis la première fois que j'ai rencontré une femme, il fallait que je me marie. Et comme déjà ici au Cameroun, chez les musulmans, encore plus sur les Bamous, c'est déjà devenu coutume, ou est-ce qu'on ne peut pas faire le mariage tant une fois passé par l'hôpital et vérifier le virus, si déjà le patient ou alors le conjoint est contaminé. Après le prélèvement du sang, on se rend compte que je n'étais pas contaminé alors que je faisais partie de cette famille.
Oui,
c'est pour la deuxième fois, je l'ai fait, ça fait déjà trois fois.
D'accord.
Il y a trois fois que je l'ai fait et puis je ne suis pas contaminé.
Alors attendez, il y a le professeur Tariq Assela qui veut vous parler.
Oui, merci pour ce témoignage, c'est très important. Hein. Ça illustre le fait que dans des pays où il y a une forte prévalence de l'hépatite B, comme l'Afrique de l'Ouest, comme le Cameroun, beaucoup de personnes ont l'hépatite B et du coup, dans leur entourage, dans leur famille, ils connaissent une personne qui a eu l'hépatite B qui est décédée d'un cancer du foie. D'où le dépistage systématique a été fait.
D'accord.
Et on sait que le mode principal, c'est le nouveau-né qui naît de la mère qui a l'hépatite B et qui n'est pas vacciné. Donc c'était le cas, plusieurs n'étaient pas vaccinés à la naissance. Mais la transmission est fréquente. Mais ce n'est pas 100%. Donc c'est pour ça qu'au niveau d'une fratrie ou de sœurs, il y en a qui vont l'avoir et d'autres pas.
D'accord.
Et ceux qui ne l'ont pas, comme c'est le cas pour M. Iliassou, on recommande de se vacciner pour être protégé contre l'hépatite B. Mm-hmm. Et j'insiste aussi parce qu'il n'y a pas, on peut transmettre l'hépatite que soit par une maladie sexuellement transmissible, des relations sexuelles non protégées, soit par un partage de sang, un usage de drogue ou un échange de seringue, soit la transmission verticale, mais on ne l'attrape pas en buvant un verre, en déjeunant, en passant un moment ensemble, on n'attrape pas
l'hépatite. Ça, il faut le rappeler.
Ça, il faut le rappeler parce qu'il y a beaucoup aussi de discrimination, de fausses croyances, en disant si on est assis à côté de quelqu'un. On n'attrape que s'il y a une relation sexuelle non protégée ou un partage d'un du sang qui est
c'est ça. Ilyassou, vous ne vous êtes pas fait vacciner, vous ?
Pardon ?
Vous ne vous êtes pas fait vacciner, vous, Ilyassou ?
Non, pas encore. Je me suis pas fait vacciner parce que... D'abord, j'ai jugé que c'était inutile parce que j'étais d'abord angoissé du fait que nous avons partagé la même marmite d'eau à boire à la maison ensemble pendant toute l'enfance jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 30 ans, 42 ans aujourd'hui, avant de me rendre compte qu'on a passé l'enfance avec les enfants d'une maman co-épouse d'une autre père qui était atteint, qui était développeuse de virus de l'hépatite B, où elle a inoculé à tous ses enfants sans toutefois être contaminée. C'est ça qui a fait aussi à ce qu'ils soient beaucoup perplexes.
Ouais.
Mais c'est pour ça qu'on n'attrape pas l'hépatite B en partageant la nourriture ou les boissons.
Et il faut se
faire
vacciner.
Donc ça confirme ça, il faut se faire vacciner pour être protégé contre l'hépatite B.
Ouais. Vous aviez une petite question, une dernière question à poser au professeur Tariq Assola, Ilyassou.
Oui, exactement. Je voulais savoir tous les modes de contamination de l'hépatite B, parce que déjà nous sommes dans une famille déjà contaminée, parce qu'il y en a beaucoup parmi nous, parmi les enfants de mon papa, et ils sont peut-être à 80% contaminés déjà.
Bah, on va rappeler,
on va rappeler les modes principaux de contamination de l'hépatite B. Le mode principal, c'est ce qu'on appelle la transmission verticale, mère-nouveau-né. Lorsque la mère a l'hépatite B, que le nouveau-né, lors de l'accouchement, attrape l'hépatite B et s'il n'est pas vacciné. Donc, c'est le mode principal, transmission verticale. Ce qui explique qu'au niveau d'une fratrie, il y a beaucoup de frères et sœurs qui peuvent être contaminés, mais ce n'est pas 100%, certains le sont, d'autres pas. L'autre contamination, c'est les relations sexuelles non protégées. Donc là, c'est important d'avoir des relations sexuelles protégées pour l'hépatite B, mais aussi pour le VIH. Et puis l'autre, c'est un échange de seringues ou du matériel souillé par du sang d'une personne qui avait l'hépatite B. Donc ça peut arriver aussi pour des actes aussi chirurgicaux dans des pays où il n'y a pas la contamination, la rigueur. Donc ça peut arriver aussi.
Ouais, voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre appel, Ilyassou. On a un autre auditeur qui nous appelle de Lubumbashi en RDC, c'est Patient. Bonjour Patient.
Bonjour, merci.
Merci d'être avec nous. Alors, patient, vous avez 37 ans et en 2017, on vous a diagnostiqué une hépatite B. Dans quelles circonstances, d'ailleurs ?
Oui, merci pour la question. En 2017, c'était les examens prénuptiaux, l'électrophorèse.
Les examens prénuptiaux,
Oui, je voulais me marier. Alors avant le mariage, nous sommes allés à l'hôpital pour faire les examens.
Et alors pour vous, donc forcément, donc c'était il y a 8 ans déjà. Hein, et depuis, vous n'avez pas consulté un médecin, il n'y a pas de traitement amorcé. Comment ça se passe ?
Jusqu'à là, d'abord, les explications même à propos de la maladie elle-même, je n'ai jamais eu des explications claires et nettes. Aussi non plus les traitements.
Ah ok, zéro explication. Et vous nous aviez confié que quelque part vous aviez un petit peu honte et que la maladie là-bas, du côté de chez vous, était assimilée au sida. Qu'il y avait c'est ça ? Vous l'avez mal vécu cette annonce ?
Oui, tout à fait. Imaginez-vous que c'était depuis 2017. J'ai gardé avec moi... depuis qu'on m'avait donné les résultats à l'hôpital, parce que j'avais honte.
Honte.
Avec les maladies pareilles ici au Congo, notre pays, quand vous allez vous expliquer les gens et qu'ils n'ont pas, ils ne vous comprennent pas, et ils disent qu'ils peuvent assimiler ça au sida, alors ça me faisait un peu honte pour dire que, parce que eux, par leur incompréhension, ils vont dire que tu as le sida et ça pouvait commencer à me faire mal, par exemple.
Ouais.
Alors, c'est pourquoi j'ai gardé ce secret-là. C'est très récemment, là, en 2024, parce que j'avais rompu avec la première compagnonne. Alors, il fallait que je reprenne une autre relation pour le mariage. Et je suis allé là-bas. On m'a confirmé maintenant que c'était l'hépatite.
D'accord. Il y a le professeur Tariq Assela qui veut vous poser une question, là, vous écoute.
Oui, merci pour votre témoignage. Je crois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de stigmatisation contre lesquelles il faut lutter. Il ne faut jamais culpabiliser d'avoir l'hépatite B. Alors c'est vrai que dans la population générale, parfois les gens disent « bon, c'est peut-être une personne qui a beaucoup de relations sexuelles non protégées, peut-être qu'il y a... » Et donc il ne faut pas porter de jugement. parce qu'on peut l'avoir, quelle que soit la façon dont on l'a. C'est important de faire un suivi, de voir un médecin, parce qu'il va faire des tests de sang, une prise de sang, une échographie, il va faire quelques examens pour vérifier s'il y a besoin d'un médicament, d'un traitement. Et donc, c'est important aussi de consulter et de ne pas culpabiliser.
C'est ça, pas culpabiliser. Et dernière petite question, quand même un petit peu intime, patient, mais vous avez des rapports sexuels protégés ?
Pas beaucoup, hein, pas du tout.
Ah, mais ça pose une vraie question, un vrai problème, ne serait-ce que par rapport à votre fiancé. Ça vous pose un souci, le préservatif ?
Bon, moi, je ne fais pas confiance à tout le monde. Quand je vais être à côté d'une fille, je cherche toujours des partenaires en qui je fais confiance. Par exemple, celle que je vais prendre en mariage. Ouais. Je ne peux pas utiliser les préservatifs parce que je lui fais quand même confiance. C'est une personne que je préfère rester avec elle toute ma vie. Alors, à quoi servira les préservatifs ?
Ouais, mais vous avez l'hépatite B. Donc, il faut aussi bien protéger sa compagne.
Effectivement, si vous avez l'hépatite B, il faut s'assurer que votre partenaire, même si après, ça sera votre partenaire à vie, soit protégé contre l'hépatite B et donc qu'elle soit vaccinée. Parce que si elle est vaccinée, elle a zéro risque. Si elle n'est pas vaccinée, elle a le risque d'attraper l'hépatite B. Oui. Donc, c'est important aussi d'informer votre partenaire.
Voilà, ne pas hésiter, ne pas culpabiliser et ne pas avoir peur d'en parler avec sa compagne. Merci pour votre témoignage, patient du côté de la RDC. Et là, on file du côté du Cameroun.
RFI à Yaoundé.
Bonjour professeur Oudoun Djoya.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour à Tariq.
Bonjour.
Tariq Assela, qui vous écoute. Vous êtes directeur de laboratoire de recherche sur les hépatites virales et la communication en santé, responsable pédagogique de la spécialisation en gastro-entérologie et hépatologie à la faculté de médecine. C'est très long pour vous présenter. Et des sciences biomédicales à l'université de Yaoundé. Dites-moi, Oudoun Djoya, avant de vous faire réagir un peu sur les témoignages qu'on a pu avoir là, vous avez certainement écouté, commençons par des chiffres. Est-ce que vous avez des données sur la prévalence des hépatites B et C au Cameroun ?
Oui, le Cameroun est un pays de haute endémicité, hein, aussi bien pour l'hépatite virale B que pour l'hépatite virale C. En moyenne, pour l'hépatite virale B, en moyenne, on a 8%, avec des points de 14% dans certaines régions. Pour l'hépatite C, on a à peu près 10%. Donc, dans tous les deux cas, nous sommes des pays de haute endémicité liés à plusieurs facteurs, les facteurs de transmission, les facteurs de vaccination pour ce qui est l'hépatite virale C, et puis les facteurs liés aux pratiques, certaines pratiques traditionnelles africaines qui peuvent expliquer donc qu'il y ait cette prévalence élevée.
Quelles pratiques alors ?
Alors, notamment les scarifications, parce qu'il y a des traitements, des tradithérapeutes utilisent des scarifications, c'est-à-dire des objets tranchants pour appliquer certains produits, d'accord ? Et passant d'un patient à un autre, ils peuvent transmettre. Et l'autre pratique qu'on a connue, malheureusement, c'était l'époque de la vaccination avec le pistolet, vous connaissez le pistolet en série. Voilà. Donc, on a eu comme ça des séries de personnes contaminées par l'hépatite virale, par le virus C. Et c'est pour cela qu'au début de la maladie, enfin, au début des travaux sur la maladie, on avait bien la preuve que c'était les personnes âgées d'un certain âge qui avaient l'hépatite virale C. Mais nos travaux ont montré qu'il y a ce que j'appelle les newly infected patients, c'est-à-dire que les gens qui, au-delà de cette époque, ont quand même développé des hépatites virales C, les personnes plus jeunes ont développé une hépatite virale C sans avoir été soumise à ces vaccinations en série.
D'où un travail de prévention qui est toujours encore plus que jamais nécessaire, hein, forcément. Dites-moi, Oudoun Djoya, est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui méconnaissent leur maladie, qui arrivent chez vous, qui sont diagnostiqués trop tard, en fait, hein?
J'ai envie de dire 90% des patients ne connaissent pas leur maladie.
90%
parce que très souvent, oui, je n'exagère pas parce que les découvertes sont souvent fortuites. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, c'est des maladies asymptomatiques. Elles sont découvertes lors d'un don de sang, lors d'un bilan de CPN, don de consultation prénatale ou lors de consultations de bilans prénuptiaux. Et de plus en plus chez nous, avec la procréation médicalement assistée, on a un centre qui marche très bien, toutes les personnes qui passent par là sont dépistées pour l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, le VIH. Donc, très souvent, c'est souvent qui découvre la maladie.
Oui.
Et donc, vous voyez, donc, la plupart ne connaissent pas, parce qu'il n'y a pas systématiquement la recherche volontaire de la maladie.
Est-ce que la vaccination est accessible partout au Cameroun pour l'hépatite C et pour l'hépatite B? Et est-ce que pour l'hépatite C, on sait que c'est un traitement certes plus court, mais très cher. Qu'en est-il au Cameroun et notamment par rapport aux patients? Parce que ça, c'est un véritable frein hein, financier. Hein.
Tout à fait. Au Cameroun, l'État du Cameroun a fait un effort très appréciable. C'est que depuis 2005, la vaccination est systématique pour tous les nouveau-nés à 6 semaines. Systématique depuis 2005. Bon, maintenant, pour les personnes qui n'ont pas eu cette chance d'avoir été vaccinées de manière systématique dans le programme élargi de vaccination, le PEV, il y a dans les pharmacies et dans les hôpitaux une disponibilisation de ce vaccin. Bon, ça coûte ce que ça coûte. Je pense que le minimum, c'est 12 euros par dose pour l'hépatite virale B. Et bien sûr, ça dépend des fabricants. Il y en a qui vont jusqu'à 15 euros. Mais il faut, comme tu as dit, avoir un schéma complet de vaccination sur 3 doses au moins avec un rappel pour être sûr d'être couvert.
Ouais. Tariq Hassel a voulu peut-être réagir à ton ménage à votre confrère.
Je suis très content, mon collègue et ami. C'est des informations très claires. C'est-à-dire qu'il faut dépister plus systématiquement. Malheureusement, souvent des malades arrivent à des stades trop tardifs, à des cancers du foie, n'ont pas été dépistés parce que c'est des maladies silencieuses. Il faut faire une vaccination universelle et on est très content qu'elle soit implémentée dans de nombreux pays. C'est vrai que pour l'hépatite C, on nous rappelait au Cameroun, les gens qui avaient utilisé des aiguilles sur plusieurs personnes.
Ouais.
C'était vrai aussi en Égypte, où il y a eu aussi une forte contamination de l'hépatite C. Et donc, c'est vrai que ce qui est un peu triste, c'est que l'hépatite B, il y a un vaccin très efficace qui fonctionne. L'hépatite C, il y a des bons traitements. Et malheureusement, dans le monde, dans les pays aussi en voie de développement, il y a une augmentation, parce qu'il y a plus de nouvelles contaminations que de patients traités ou vaccinés. Donc, on a besoin de continuer des efforts, que tous les acteurs se mobilisent pour avoir l'accès facile aux tests diagnostiques. Parfois, ils ont des coûts élevés, sont accessibles. Et accès au traitement, qui encore, il faut aussi chercher l'accessibilité.
On arrive à la fin de cette émission. Professeur Ndoun Joya, pour terminer, un dernier message peut-être aux auditeurs tristes qui nous écoutent au Cameroun et ailleurs.
Je voulais d'abord rassurer les Camerounais que les médicaments contre l'hépatite virale C et Coïtari sont efficaces. Ils existent au Cameroun, même si le prix est encore élevé. Le Cameroun a fait l'effort de subventionner le traitement contre l'hépatite virale C. Il existe. Nous avons eu, je pense que le Cameroun a été le premier pays en Afrique subsaharienne à expérimenter le Vosévi, qui est le médicament le plus puissant actuellement, mais c'est dans le cadre d'une étude. Mais ça a au moins démontré que le médicament est efficace et qu'il guérit à 100%. Bon, maintenant, le plus important, c'est de faire la prévention, c'est-à-dire éviter les attitudes, les pratiques qui puissent exposer les patients. Et je voudrais m'adresser, si l'occasion est bonne, de m'adresser aux tradithérapeutes qui laissent croire que l'hépatite virale ne se soigne pas à l'hôpital.
Ouais,
non,
d'accord.
C'est le contraire.
Ouais.
L'hépatite virale B comme C se soigne à l'hôpital. Et puis, ce n'est pas en traitant uniquement les symptômes, genre fièvre ou une jaunisse, la couleur jaune des yeux, qui traduisent la maladie. La maladie est plus importante que ça et elle expose à des complications graves comme la cirrhose, comme le cancer du foie, qui, eux, n'ont pas de traitement curatif.
Merci
beaucoup. Le message est bien passé. Un dernier mot très rapide.
Très rapide, c'est que, il y a aussi l'hépatite D, qui est plus rare, mais qui contamine les gens qui ont l'hépatite B avec un gros risque de mortalité. Et puis, il y a aussi beaucoup de perspectives thérapeutiques pour guérir l'hépatite B. Il y a des essais cliniques. Et donc, on invite aussi les personnes de se rapprocher des centres d'essais thérapeutiques parce qu'il y a des programmes pour guérir l'hépatite B, HBV Cure. Il y a des programmes de recherche avec des nouveaux traitements pour l'hépatite B, l'hépatite D. On en a beaucoup, par exemple, à l'hôpital Beaujon à Clichy. Mais il y a d'autres centres et donc c'est important d'être informé sur la future recherche pour guérir.
Ah ben voilà, et terminons sur une note positive aussi. Merci beaucoup à tous les deux pour vos lumières. Merci professeur Oudou Joya. Belle journée à Yaoundé. Merci beaucoup professeur Tariq Hassela. Dans quelques instants, tout autre sujet, on sera en ligne avec Olivier Couster, organisateur de la course du cœur qui a lieu demain jusqu'à dimanche pour sensibiliser à l'importance du don d'organes. C'est juste après le groupe colombien Bomba Estéreo avec les Vénézuéliens Rewaya et ce titre Me Pasa sur RFI.
noche y baila hasta el amanecer. Quiero que sepa conmigo te va y de viaje no va a volver.
Sin tiquete de regreso y sin planearlo muy bien. Nada de andarnos despacio, vamos al espacio volando esta vez.
Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener. Baby, no veo la salida, yo creo que aquí me quedé.
El piso se mueve, no hay nadie en la casa. Mi corazón late y eso no me pasa. Pero qué me importa. ¿Y qué me pasa? Tú me pasas. El piso me mueve, me tumba la casa. Mi corazón late y ahora me pasa. Pero qué me importa.
Llévame a volar por todos los planetas. Tú eres de la mía, los dos planetarios bailando champeta. Vamos a atravesar como los cometas, prendidos en fuego mientras resolvemos de quién es la arepa. Vamos a romperlo todito, te voy a dejar bien contenta. Me gustan así, hippie John Lennon, Yoko en los 70. Te veo a los ojos y no hay gravedad, estamos en cámara lenta. Estamos flotando burbujas de amor, Juan Luis y sus 440.
Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener.
Baby, no veo la salida, creo que aquí me quedé.
Te conozco de otra vida, nos encontramos otra vez.
Cuando te miro a los ojos,
se me eriza la piel.
¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa.
Mi corazón late y eso no me pasa. Pero qué me importa.
¿Y qué me pasa? Tú me pasas. El piso me mueve, me tumba la casa.
Mi corazón late y ahora me pasa. Pero qué me importa.
Bamba et Cereo avec Mais pas ça, titre à retrouver sur la playlist de RFI. Sensibiliser le grand public à l'importance du don d'organes, de moelle osseuse et de tissus, c'est l'objectif de la course du cœur qui a lieu sur 800 km à partir de demain jusqu'à dimanche entre Paris au départ du château de Vincennes et Bourg-Saint-Maurice-Lézard. Et on en parle avec vous. Bonjour Olivier Couster. Olivier Couster, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Transforme, l'association fédérative française des sportifs transportés, transplantés et dialysés à l'origine de cette course du cœur. Il y aura 200 coureurs autour d'une équipe, notamment de 12 coureurs greffés, avec ce message, le don d'organes jeudi. Oui, et surtout j'en parle à mes proches, c'est ça, surtout j'en parle à mes proches, aux médecins, c'est surtout ça.
Oui, surtout ça. En fait, vous, l'équipe des greffés qui court, c'est le symbole de la que la greffe, ça marche. Mm. Et c'est parce que ça marche qu'on ose dire au public, effectivement, réfléchissez-y, prenez position. Ça ne porte pas malheur de réfléchir, d'en parler avec vos proches. Prenez une position, faites connaître cette position aux proches. C'est ça l'objectif.
Ouais, vous dites qu'il faut inverser la question en se demandant et si moi j'avais besoin d'un organe pour continuer à vivre. C'est sûr que si on renverse la question, ça pose.
Oui, parce qu'en fait, en réalité, il y a beaucoup plus de chances de recevoir un organe dans sa vie que de risques d'en donner. Vous savez, il est prélevé à peu près 3 à 4 organes en moyenne par personne qui va décéder dans des conditions peu prélevées. Mais ça va sauver 3 à 4 personnes. Donc, il y a plus de chances de recevoir que de donner.
Ouais, faut rappeler quelques chiffres. Vous avez raison, Olivier Couster. À peu près plus de 22 000 patients aujourd'hui inscrits sur la liste d'attente. Il y a beaucoup d'enfants aussi, faut le rappeler.
Il y a des enfants. Et puis dans ces patients qui sont en liste d'attente, et bien il y en a par exemple en 2024, il y en a le plus de 850 qui sont décédés faute d'un don à temps. Donc voilà, donc c'est ce dont il s'agit.
Quels sont les organes les plus souvent prélevés et surtout ceux qui manquent aujourd'hui?
Bah écoutez, c'est une pénurie, hein, ça veut dire qu'il y a 22 000 personnes, comme vous l'avez dit, qui sont en liste d'attente. Donc, et il y a 6 000 greffes quand même qui sont réalisées. Ça, il faut insister sur quand même la générosité des Français. C'est 6 000 personnes. Avec le Covid, c'était descendu à 4 500. Vous voyez, donc il y a des progrès, donc ça progresse. Mais malgré tout, voilà. Alors, les organes les plus greffés, les plus prélevés, sont les reins. Après, c'est le foie. Après, c'est le cœur, après c'est les poumons, voilà, et donc ça permet surtout, ce sont des greffes vitales, hein, donc ça veut dire que ce sont les personnes qui décèdent, sauf pour le rein, où il y a la thérapie quand même de la dialyse qui permet d'attendre une greffe de rein, mais sinon pour les autres organes, voilà, c'est un enjeu de vie ou mort.
Mmh. Vous-même greffé rénal, hein? Aussi.
Oui, je l'ai été trois fois, donc
ouais, trois fois.
Je mesure, hein, la chance
d'être
en vie et la générosité humaine, voilà.
Ouais. Il faut y croire, à la générosité humaine. 80% des Français sont pour le don d'organes, mais il y a un autre chiffre quand même, 36% d'opposition exprimée par les familles. C'est quoi les principaux motifs de refus?
Qui est incroyable, c'est qu'effectivement, quand on demande aux Français, les sondages le montrent, c'est 80% soutiennent le don d'organes. Mais pourtant, quand une personne décède, eh bien, il y a un taux, et qu'elle ne sait pas, elle ne s'est pas prononcée de son vivant, elle ne s'est pas positionnée par rapport au don. Donc, ça veut dire que la famille, les proches qui sont consultés à ce moment-là, avec qui va s'instaurer un dialogue, est-ce que vous savez si votre proche s'était opposé au don d'organes? Eh bien, souvent, ils ne le savent pas. Et donc, dans ce moment tragique, etc., eh bien, il y a 36,4% en 2024 de taux d'opposition exprimé par les familles. C'est bizarre, parce que... Et c'est pour ça que je vous disais, il faut le dire de son vivant,
c'est
parce
ça.
Que les familles, ne pas leur imposer de choisir à votre place.
Voilà. Et rappelez que rappeler que les prélèvements d'organes se font sous conditions très strictes. Hein. C'est un acte chirurgical et le corps, entre guillemets, sera rendu dignement à la famille, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'angoisse là-dessus aussi.
Oui, il y a des angoisses là. Il y a aussi les religions, mais les religions monothéistes présentes en France sont toutes en faveur du don d'organes. En tout cas, sauver un homme sauve l'humanité. C'est là où elles se retrouvent. Donc en fait, il n'y a pas de raison dans notre loi française de s'opposer au don d'organes. Ce sont des conditions effectivement extrêmement rares. C'est moins de 1% des décès à l'hôpital, hein, les conditions de la mort encéphalique. Donc voilà, mais on peut comprendre que quand on n'est pas informé, quand on n'en a pas parler,
c'est ça.
Eh bien, à la tragédie de la disparition soudaine, hein, c'est toujours soudain, c'est un traumatisme crânien très grave. Bien, quand on n'en a pas parlé, eh bien, ça laisse une famille qui est dans un choix compliqué.
Voilà, il fallait en parler. Pour s'inscrire, réaliser des dons, le site c'est lacourseducoeur.com et c'est à partir de dimanche, de demain jusqu'à dimanche. Merci beaucoup Olivier Couster d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe. J'ai plus le temps de vous désannoncer. On se retrouve demain à la même heure. Rien à voir. Autre sujet, on parlera des ruptures amoureuses. À demain.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.